La question du graphisme, toujours l'écriture, et on avait terminé avec les artistes qui utilisaient de manière, on va dire, plastique l'écriture et le contenu de message et de l'écriture, donc de façon très claire. On avait vu le côté un peu poétique, le côté un petit peu presque politique, polémique ou presque littéraire. Et aujourd'hui, je voulais aborder une question qui est assez à laquelle on est confronté dans une sorte de pratique d'art populaire, c'est le graffiti, l'art de la rue, le street art, etc. Qui effectivement, lui aussi, s'ancre dans une tradition souvent d'écriture, d'appropriation du territoire, travail sur le support, relation avec un public particulier, et avec plus ou moins de messages, et qui va rencontrer aussi des pratiques artistiques, on va dire, plus savantes. Hein, et ce qui est intéressant autour du street art, alors certains d'entre vous étaient peut-être, j'ai eu l'occasion de faire une conférence aux Ulis l'année dernière sur le street art, alors je n'ai pas utilisé, ça durait 1 heure et demie, donc j'avais fait un truc un peu plus complet, mais c'est important aussi parce que si on parle de graphisme, évidemment, on aborde la question du graffiti, du street art, etc. Alors, ça recouvre beaucoup de pratiques, je voulais essayer de vous le montrer. Alors d'abord, il y a une pratique, on va dire, assez ancienne, notamment autour du 20. Alors, je ne remonte pas au graffiti romain, mais on va dire, la société du 20e siècle, une société très médiatisée, avec des médias officiels, des journaux, une presse qui est gardée par un certain establishment, il y a effectivement dans l'appropriation de la rue comme un espace public, marquer la rue, marquer le territoire directement sans passer par des médias ou des pouvoirs officiels, quelque chose qui est un enjeu. Alors, ça peut être un enjeu parfois dans des guerres et des conflits, comme par exemple ici. C'est pas une pratique, on va dire, artistique, c'est une pratique artistico-politique avec une part de propagande. Là, une fresque des orangistes, des loyalistes protestants qui effectivement marquent au sens strict le territoire. Vous entrez maintenant dans le territoire loyaliste, etc. Donc, cette idée effectivement de dire aux républicains, aux catholiques irlandais de ne pas pénétrer ou faire attention, etc. Avec attention avec l'écriture, avec les drapeaux et y compris avec la cagoule. Et l'armement, la Kalachnikov, des orangistes, des loyalistes. Donc vous avez ce marquage du territoire dans la rue. Alors, il y aura aussi une esthétique, hein, en Irlande du Nord, il y en a eu beaucoup, hein, sur notamment les écritures, mais y compris les glorifications des héros, des martyrs, une esthétique répandue dans l'occupation du territoire. L'occupation du territoire aussi, le marquage de lieux publics, comme par exemple le mur de Berlin. C'est un mur imposé, mais on sait très bien que côté ouest, il a été investi pendant des années par un art du graffiti qui a été sur des kilomètres et des kilomètres. Le mur de Berlin était une sorte de gigantesque surface d'expression directe, nocturne, libre, rebelle, indépendante, éphémère aussi, parce que le principe même, peut-être à la différence des peintures irlandaises, je pense que quelqu'un allait taguer un graffiti des loyalistes en pleine nuit. Il devait avoir des problèmes en pleine guerre irlandaise. Bon, à Berlin-Ouest, aller taguer le mur côté ouest, je pense que ça ne posait pas de problème. De l'autre côté, il n'y avait pas de tag. Puisqu'effectivement, la police de l'Est surveillait effectivement. Donc vous avez quand même aussi le même mur, hein, traité de manière différente. Ça révèle aussi pas mal de choses. Cette idée aussi d'un art populaire et spontané, c'est-à-dire qui n'a pas précisément de règles, si ce n'est celle de combiner souvent le message quand même avec un impact visuel et puis une certaine esthétique de l'urgence. Puisqu'on ne peut pas travailler longtemps, on travaille vite, donc la bombe, parfois des slogans, des images simplifiées. Il y a, dans le street art notamment, des contraintes, toutes bêtes, hein, on ne peut pas passer 3 ans devant sa peinture. Et puis on a aussi le risque de l'avoir effacé presque le lendemain, ou recouverte, ou abîmée, etc. Donc des matériaux souvent pauvres, récupérés. Et puis Berlin, il y avait aussi un enjeu idéologique, aussi de montrer une certaine liberté, hein, à la différence du côté est. Le côté ouest semblait aussi plus attirant. Alors, dans les murs, vous avez aussi, comme par exemple les murs en Palestine, Jérusalem, entre la bande de Gaza et Jérusalem, là, quelque chose qui est intéressant parce que se combine, on va dire, une culture de street art presque un peu de banlieue, et puis une des images, des peintures un petit peu de propagande, ou une imagerie politique aussi sur l'armement, ici une femme en armes, etc., où se combinent plusieurs esthétiques sur le mur et comme une sorte de provocation un petit peu contre l'occupant ou le pouvoir israélien et sioniste, notamment, etc. Donc là, on voit le mélange des genres, mais avec cette idée quand même du message. À chaque fois, il y a un message politique très clair, quel qu'il soit, qui s'approprie la rue. Et alors, il y a beaucoup d'enjeux là-dedans, parce que c'est humaniser aussi des architectures qui sinon seraient un peu neutres, ou un peu qui n'ont pas d'intérêt. Un quartier, une frontière, un mur en béton, une pratique militaire hostile, on voit les barbelés, etc. Et puis, neutre, hein, anonyme, et là, personnalisé, rendre sensible, etc. Ça, c'est quelque chose aussi d'assez clair. Une sorte de défi, hein, défi aussi public, d'aller marquer le territoire. Alors, ça peut, et ça, c'est toujours sur le mur de Gaza, hein, ça, c'est aussi, justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que la pratique artistique... La pratique artistique, on va dire brute de street art, signature, propagande, etc., peut aussi parfois s'inspirer d'une imagerie. Tout à l'heure, on a vu une imagerie de type photographique, un peu héroïque de la presse, la combattante. Mais par exemple, ici, la référence à la création d'Adam par... la main de Dieu et la main d'Adam par Michel-Ange, culture occidentale, chrétienne, etc., remise ici, universalisée, en montrant aussi peut-être l'idée d'une séparation ou de ce qui relie théoriquement les musulmans et les juifs, la Bible, hein, avec Adam et cette création, et Adam abandonné aussi, parce que dans Michel-Ange il y a ça. Donc vous avez aussi l'utilisation intéressante dans un street art de références artistiques, on va dire, plus majeures, et de ce point de vue-là, c'est intéressant aussi, parce que c'est vraiment un lieu de rencontre. Alors, c'est aussi comme la ville, c'est aussi comme la rue. C'est en ce sens-là, le street art est intéressant parce que c'est un vrai lieu de rencontre de différents espaces, différentes cultures, où la culture savante va retrouver la culture populaire, l'individu va rencontrer la société, des conflits, etc. Et c'est une sorte de peau vivante. Et là, comme dans presque toutes les pratiques autour du graphisme, le support est très important. Parce qu'effectivement, le support dit beaucoup de choses. Est-ce que c'est du papier? Est-ce que c'est fragile? Est-ce que c'est un journal? Est-ce que c'est un mur? Est-ce que c'est du béton? Est-ce que c'est éphémère? Et vous avez cette idée aussi, dans tout ce qui est graphisme, de la révélation du support. Alors vous avez aussi, par exemple, ça c'est le mur de John Lennon à Prague. Bon, John Lennon aussi, une sorte de figure populaire qui croise aussi les genres. Artistique, individuel, populaire, savant, rebelle, et en même temps médiatique, universel. Hein, on se trouve à Prague, en plus dans les pays de l'Est, il est mort en... et à sa mort, on est avant la chute du mur, il est mort en 80. Donc, une sorte d'icône populaire, et le graffiti est assez... Et le grand mur de John Lennon fait... Alors, je ne sais pas si j'ai plusieurs documents sur le mur de Lennon, voilà. Hein, le mur de Lennon, avec Imagine, évidemment, les Beatles, comme... un art, là encore, populaire et savant, qui aussi est un des premiers arts, une pratique artistique, les Beatles, qui a été mondialisée, hein, la Beatlemania, mais avec un contenu, avec des messages, etc. Donc, assez logiquement, le street art va retrouver et rendre hommage avec, là, quelque chose qui est assez extraordinaire, parce que là, c'est la saturation, mais on pourrait presque l'assimiler aux œuvres d'art préhistorique, où l'idée d'aller peindre sur les autres, c'est pas une négation de ce qu'ont fait les autres, c'est une manière de rentrer dans, de participer à une sorte d'édifice, et même cette espèce de saturation, l'écriture ne recouvre pas tout. Donc, comme je dis, le support, une écriture et une ligne, ça ne cache pas. Ça vient s'inscrire sur un support, et si le support est déjà occupé par d'autres écritures, ben c'est une manière de participer à une œuvre collective dont chacun va donner une petite brique ou une petite trace. Ce qui fait que c'est pas une violence faite aux écritures précédentes, c'est au contraire une manière de se fondre, de rentrer dans un art collectif. Hein, cette idée de superposition incroyable d'écriture et de traces. Alors certains réussissent quand même à essayer de en allant plus haut, à essayer de se dire que je vais quand même surnager, mais quelque chose de chaleureux, très vivant, finalement, et assez intéressant, dans lequel on va pouvoir plonger aussi. C'est très dense. Alors, c'est une œuvre collective, évidemment, il n'y a pas personne à... Mais tout d'un coup, le street art permet aussi parfois l'émergence d'œuvres collectives réelles, populaires, publiques, et c'est pas inintéressant. Alors, dans le street art, on va dire, vous avez aussi les affiches populaires, hein, on a vu l'affichage, les parents votent, les enfants trinquent, hein, donc on ne voit pas le... Les affiches de 68, où tout d'un coup, vous avez effectivement, par le thème du pochoir ou de la sérigraphie, qui sont des techniques assez simples de dessin ou d'écriture, eh bien, vous avez une manière de pouvoir envahir les rues, hein, en multipliant les affiches, les points d'ancrage, occupation aussi du territoire, avec un petit peu comme le graffiti, le fait que l'affiche, ça peut être arraché, c'est fragile, ça peut être couvert, donc on trouve après les mêmes logiques, mais avec aussi toujours une sorte d'esthétique de l'urgence et de l'éphémère, qui est assez typique du street art à ses origines. À ses origines, mais on est souvent quand même proche, évidemment, du message, évidemment, avec des confrontations qui sont aussi parfois de l'ordre du hasard, hein, comme par exemple une affiche ici presque de notaire, ou une affiche publicitaire, etc., ou combinées avec des affiches de cinéma ou de théâtre, avec des affiches politiques qui vont se rencontrer. Donc la rue, aussi comme un lieu de dépôt, hein, comme une sorte de déposition au sens strict, de peau, de strates, hein, de sédiments d'une activité collective. Alors dans cette espèce de patrimoine, on va dire collectif et commun, presque naturel, qui correspond bien à nos sociétés urbaines, vous avez des gens qui vont essayer quand même de laisser une signature individuelle. Donc là on a vu une sorte d'art collectif, un peu anonyme. Vous avez certains qui vont donc, comme par exemple un des premiers, c'est Gérard Zlotykavien, S-Z-L-O-T-Y-K-A-N-I-E-N, ah ben, je l'ai écrit en vert, Zlotykavien, qui lui va essayer dans cette espèce de chaos, de magma, de signes écrits, etc., de marquer un territoire. Alors cette fois-ci, on est dans une sorte de... exactement comme une signature, de toute façon, le tag, c'est-à-dire signature, tout simplement, hein, c'est une sorte de logo signature, eh bien, au lieu de mettre son nom, il va essayer de faire des personnages qui seront reconnaissables, ces espèces de bonshommes têtards, un petit peu enfantins, anonymes, simples. Et Zlotykavien, dans les années 68 à peu près, va intervenir comme ça. Alors souvent, vous parlez du support, des supports abandonnés, des friches industrielles, parce que là, il sait à la limite qu'il n'y aura pas de problème. C'est des lieux qui sont moins surveillés, dans lesquels il peut y aller sans problème. Et puis aussi des choses qui sont à l'abandon, il les humanise. Hein. Et puis en confrontant une figure humaine avec des figures un peu abîmées à l'abandon, il y a aussi une poétique des matériaux et de cette espèce de signature. Hein. Alors là, il est en plein jour d'ailleurs, mais qui fait que quand on va se balader dans ces ruines, dans ces friches, il y aura une sorte de présence, au lieu qu'elle soit uniquement à l'abandon, il y a comme ça une sorte de vie qui s'introduit comme ça. Alors, Zlotykavien est un des pionniers du street art en France, et on le voit, ça peut aller loin, effectivement, comme, alors là, il se promène au milieu de ses œuvres, habillé de manière en rouge, noir et blanc, hein, donc là, c'est une manière de... avec, évidemment, toujours l'esthétique de l'urgence, la simplicité, de la trace, l'outil, la bombe ou le pinceau, tchouk-tchouk-tchouk, le barbouillage, etc. Et puis, une sorte de poétique, ces personnages avec les têtes qui flottent, hein, qui ont l'air un peu barbouillés au sens strict, y compris intérieur, une difficulté à vivre. On est en plein dans les mutations sociologiques, politiques des années 70, hein, y compris des territoires. Je ne sais pas si vous vous souvenez tous les films, vous avez connu ça, le bouleversement hallucinant de Paris dans les années 60, c'est toute la banlieue, c'est le brutalisme, c'est une violence qui s'est un peu broyée aussi, le passé, la tradition, voilà. Que ce soit Pierre Etex, Tati, presque tous les cinéastes en ont beaucoup parlé, ces phases-là aussi de bouleversement. Et donc là, vous avez un personnage fragile qui essaie de résister dans cette espèce de violence urbaine, de la bétonisation, des destructions, etc.
Donc, avec ces
photos ou... Ah non, ça ce sont des pratiques totalement d'amateurs, ça. Non. Là, ce sont des gens qui, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais très rarement, non. Parce que là, il y a...
En plus,
une mise en scène. Oui, alors ça c'est vrai, il y a une mise en scène évidemment très claire, parce que, bon, je ne connais pas exactement précisément son travail, mais la plupart de ces artistes-là sont des artistes qui souvent ont d'autres, même encore maintenant, Banksy réussit à vivre de son travail de street artiste, mais je voyais un interview récemment de Space Invader, que Julien Matisse, sur lequel Julien, le fils de Marilyn, a travaillé, il est anonyme, et même pour vivre de son travail, c'est très difficile, donc souvent, c'est des gens qui ont un autre travail. Mais pour qui, c'est une activité à la fois artistique, poétique, politique, hein, donc, mais qui renonce la plupart du temps. D'abord, parce que souvent, leurs pratiques sont interdites. Donc, s'ils étaient connus, on pourrait avoir des procès en permanence. Quelqu'un de Banksy aurait des procès tout le temps, presque tous. Donc, à ses débuts, une bonne partie du street art, c'est un art clandestin, anonyme, et c'est souvent avec des pseudos, des pseudonymes, etc. D'ailleurs, Zlotti, ça s'appelle les Zlotti quand même. Alors, par contre, quelqu'un comme, d'un point de vue purement plus artistique, on va dire, quelqu'un comme Ernest Pignon-Ernest, va faire aussi une sorte de street art, et il continue. Donc, Ernest Pignon-Ernest travaille sur des dessins qu'il va sérigraphier. Alors, lui aussi, il utilise une technique de l'affiche de propagande, la sérigraphie, très simplifiée, sauf qu'il fait des dessins assez sophistiqués, très élaborés, en noir et blanc, il en fait des sérigraphies, donc je ne sais pas si vous connaissez le principe d'une... un cadre de soie qu'on va insolariser avec un produit chimique qui va boucher les trous plus ou moins, et donc ça va laisser passer plus ou moins l'encre, ça permet de faire des dégradés, des modelés de valeur. Et si on fait plusieurs passages, ça permet de faire de la couleur. Mais bon, c'est une sorte de pochoir sophistiqué, mais qui permet de faire des séries de quelques centaines, parfois, d'images. Et notamment, une de ses œuvres les plus intéressantes à ses débuts, c'est sur Rimbaud. Hein, il fait donc un Rimbaud un peu modernisé, l'homme aux semelles de vent, l'adolescent rebelle. Hein, on est dans les années, après les années 60, 70, c'est-à-dire le côté un peu 68, la jeunesse, l'émergence de la jeunesse, l'adolescence, la liberté, etc. Et puis, une espèce de poésie et de l'errance, hein, Rimbaud étant quelqu'un qui marchait énormément, qui est parti de Charleville-Mézières jusqu'à Paris à pied. Et donc, Pignon-Ernest va refaire tout le trajet de Rimbaud en collant des affiches avec Rimbaud sur les murs. Mais là, avec aussi l'idée de fragilité, jeunesse, quelque chose qui ne s'impose pas, quelque chose aussi qui est soumis, et puis tout à coup, une présence extraordinaire dans les rues, hein, ce Rimbaud sur les cabines de téléphone abandonnées, etc., qui sont... Et en plus, Pignon-Ernest utilise aussi là-bas le geste du militant qui va coller ses affiches, mais là, pour une pratique poétique et artistique. Donc là aussi, vous voyez un croisement assez remarquable du street art, du graphisme, emprunté à une pratique politique, mais qui rencontre la rue, l'espace public, etc. Donc Pignon-Ernest, alors, continue ce genre de choses, hein, il fait toujours, c'est un niçois, et là on voit plusieurs affiches de ce Rimbaud, qui quelque part devient un emblème de la jeunesse, et puis ben, ces affiches sont déchirées. Alors là, par contre, il reste les photos. Alors, Pignon-Ernest, lui, va pouvoir parfois vendre, ben, ici, il ne colle pas toutes ses affiches, il peut vendre quelques-uns des originaux, etc. Ou il garde le cadre, il peut en réimprimer. Donc vous avez aussi, de ce point de vue, Pignon-Ernest sera un artiste, on va dire, plasticien, lui, pur, et il va donc pouvoir combiner une pratique artistique, et parfois il va même dessiner des choses sans les imprimer, donc il y aura des dessins originaux, et qui pourra vendre ou exposer. C'est-à-dire qu'il va jouer sur les deux. À la fois une pratique, on va dire, d'atelier artistique, et la rencontre avec un art street art, comme par exemple ses Rimbaud. Et vous voyez encore d'autres Rimbaud avec une amie vide. Et vous voyez bien ce que je vous disais, mais j'avais oublié que cette image, je le disais, le brutalisme aussi d'une architecture un peu violente, hein, les palissades, les constructions, etc. Et puis la fragilité d'un monde aussi qui semble un peu s'en aller, mais qui peut revivifier une tradition poétique. Alors, dans le graffiti et le geste, vous avez aussi quelqu'un qui a eu une heure de gloire et puis qui a un peu disparu, c'est l'artiste français Georges Mathieu, qui lui faisait aussi... Alors, attendez, je crois que j'ai une image, on le voit. Voilà. Georges Mathieu était un petit peu un héritier des gens comme Soulages, Hartung, Pollock, etc. Donc des gens qui travaillent sur le geste, une sorte d'action painting à l'américaine, c'est-à-dire que la peinture devient une action. Et Georges Mathieu, au début, l'a fait de façon assez sincère, c'est une sorte de grand travail de calligraphie spontanée, fait comme des sortes de crise, un petit peu, pas de crise, mais de moments d'exaltation et d'aspiration dans lesquels il va faire des sortes de grands gestes, des compositions graphiques un peu improvisées. Mais il est vite devenu un petit peu un personnage public, médiatique, jusqu'à faire des sortes de peintures en public, à la télévision. Il est devenu un artiste un peu officiel, c'est même lui qui a fait les pièces de Monet, les dernières pièces de 10 francs, à Paris, etc. Donc, mais en tout cas, vous avez l'idée que la signature, hein, le geste artistique, etc., lui aussi, peut rentrer dans le domaine des beaux-arts. Donc si vous voulez, vous avez un croisement. Des peintures ou des plus traditionnelles vont rencontrer la rue, et la rue, ou le graffiti, la signature, un art graphique pur, va rencontrer les beaux-arts. Alors, le problème, c'est que Mathieu, il en fait un peu trop. Il va travailler avec de l'or, avec enfin, des matériaux riches, avec une sorte de dimension un peu spectaculaire. Et il se met en scène. Au lieu d'être dans l'anonymat des peintres du street art, lui, au contraire, il va totalement sous les feux de la rampe. Alors, il y a du Mathieu intéressant, il y a du Mathieu un peu moins intéressant, mais vous vous souvenez sans doute de Georges Mathieu. Alors, c'est pas une œuvre d'art, mais le graffiti ou le tag plutôt, on sait aussi que ça peut avoir une. Ça peut être aussi effroyable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a parfois une dimension artistique, un peu politique, poétique, mais vous avez aussi le côté un petit peu vandale, appropriation de territoire, transgression plus bas de gamme. Les toilettes, c'est effectivement une sorte de lieu de l'interdit et de l'anonymat. Donc, entièrement tagué comme ici. C'est un graffiti ou des tags pris dans des toilettes d'un lycée ou d'un établissement parisien, je crois, il y a quelque temps. Donc, on peut avoir aussi ces sortes de choses-là de chute, hein, une pratique qui, là, est vraiment à l'état peut-être de démon. Oui.
Par exemple, là, vous dites c'est de bas niveau. La différence entre cette action et l'action de l'extérieur, ou au Mirimbaud et tout ça, il y en a une qui enferme et autre qui ouvre.
Oui, déjà, par exemple. Il y en a une, en plus, qui est dans une sorte de transgression presque infantile. Les toilettes, si vous voulez, on est dans un stade aussi de... C'est un peu le côté du gosse qui va dans les cabinets, qui fait des bêtises dans les toilettes. Donc, on est vraiment dans quelque chose de... une ambition très...
Ça n'ouvre pas.
Il n'y a pas de raison. Ça n'ouvre pas. Au contraire, ça referme. Et c'est une sorte de transgression. Alors, voilà, on a tous vu des graffitis à les toilettes. En plus, en général, bon, il y a une sorte d'exhibition, scatologie, sexualité, pas très, etc. Donc, alors que l'autre va se confronter, là, en plus, il n'y a pas de risque, les toilettes sont enfermées. C'est qu'elle est taguée dans la rue, graffitée dans la rue, il y a une vraie prise de risque politique, poétique. Hein, tandis que là, on ferme le loquet, on fait l'idiot, puis on sort. Enfin bon, voilà. Il y a quelque chose aussi. Et puis, il y a une certaine agression. Parce que celui qui regarde aussi est prisonnier dans ses toilettes, il n'est pas forcément... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui, de ce point de vue-là, est aussi un peu agressif. Alors, parfois dans le street art aussi. Et là, par exemple, effectivement, à un moment d'intimité un petit peu perturbé...
Excusez-moi, justement, j'ai vu, je me posais la question, je veux vous la poser, c'était à Suresnes, dans un café, je rentre, dans les toilettes, il y avait une espèce de... Comment on appelle ça, la lunette de toilette, et il disait... je suis au bout du rouleau.
Le rouleau est à un côté.
Alors je me disais si c'était de l'art ou pas.
Ah oui. Alors, ça peut être de l'art. Alors il y a des artistes qui ont travaillé sur les toilettes, Duchamp, le Rénoir, etc.
C'est possible.
Il peut y avoir de l'humour. Là, bon, c'est on va dire le côté un peu limite du graffiti.
Alors je vais l'imprimer, j'ai vous la donner. Je l'ai sur mon.
Alors, dans le street art et les côtés simples, un des artistes les plus connus, y compris parce qu'il est mort jeune, donc par rapport à sa légende, c'est Keith Haring, cet artiste américain new-yorkais qui s'est fait connaître. Alors lui, avait quand même une formation artistique, hein, beaux-arts, etc. Mais pour certains artistes aussi, l'occupation de la rue, c'était aussi une manière de se faire connaître, parce que sinon, on va dire, tout l'establishment était fermé. Les galeries, les musées, etc., étaient dans une sorte de... un monde entièrement accaparé par des classes dominantes. Oui, alors la photo est assez extraordinaire, à côté de mes sur le banc, ça. Et vous avez Harry, qui lui fait un art de rue, mais dans lequel il va effectivement avoir une signature, c'est-à-dire un style personnel. Il va aller souvent dans des endroits qui sont... des endroits qu'il va repérer comme étant provisoirement inoccupés, mais tout à coup deviennent des cadres, parce qu'avant qu'une nouvelle affiche arrive, parfois vous avez un endroit dédié à l'affiche publicitaire qui est vide, comme ce panneau noir, et lui, il va intervenir là-dessus. Et souvent, il va se faire arrêter, on a plusieurs images à lesquelles on le voit, alors comme par exemple ici, sur Keith Haring, les grands murs, alors, on ne voit pas arrêter ici, mais j'ai d'autres films, on le voit en train de se faire arrêter, avec cette idée aussi alors, un peu politique et sociologique de dire, attendez, il y en a qui payent pour vous imposer leurs images publicitaires, et là, ils n'ont pas de problème. Il y a ceux qui font les graffitis qui salissent, on va dire, enfin qui envahissent des lieux, comme par exemple le mur, et qui sont beaucoup plus difficiles à effacer avec des moyens durs. Moi, je fais juste, je vous donne une œuvre d'art sur un endroit provisoire, etc., et on m'arrête, parce que je fais en plein jour. Donc, il révèle aussi tout un système marchand, politique, social, et c'est très intéressant, parce que, dire, bah, attendez, moi, il y a un truc noir, je fais un truc, je vous donne une œuvre d'art, il était déjà relativement connu, et je ne demande pas d'argent, je suis généreux, et en même temps, on m'arrête, parce que tout d'un coup, j'ai utilisé un espace publicitaire, qui normalement, par contre, si j'avais de l'argent, je pourrais faire ce que je voulais. Et donc, en faisant ça, c'est aussi un acte sociologique et politique très clair. Hein, et de ce point de vue-là, il est intéressant, Haring. Hein, parce que, vous avez vu, entre la publicité ici, et on va dire, le graffiti de base, qui est juste le marquage du territoire par une bande new-yorkaise, etc. Et donc, ensuite, il le fait dans des endroits... Alors, lui, ce n'est pas des endroits cachés, c'est il le fait souvent sur des grands lieux de passage. Le métro, parce qu'il y a cette idée aussi d'être dans un art populaire, c'est de donner à voir sa signature, et souvent, vous avez... Et là, par exemple, vous avez ce tank, hein, c'est ici, un personnage qui joue la force, la puissance. Il a un dollar ici, il prend un dollar d'un côté, et en fait, il a aussi un char d'assaut de l'autre côté, avec la puissance, la force, l'argent, la militarisation, etc. Donc, souvent, c'est et il utilisait un langage très très simple, hein, de type, justement, on n'est pas loin de l'écriture, au sens strict, parce qu'il utilise du blanc, souvent, sur un fond noir, ou une forme très très simple, qui s'approche, justement, du langage écrit, comme par exemple ici, avec des codes, des signes, des repères. Donc, Keith Haring aussi réussit à la fois à être personnel, à trouver un style, en utilisant les moyens les plus simples, qui sont hérités d'une écriture très simple, avec un trait régulier, mais avec en même temps une simplification, une stylisation qui lui est propre, et souvent un contenu. Alors, c'est aussi dans le New York avant le maire Giuliani, hein, qui ensuite c'était le New York un petit peu chaotique, sale, proliférant, où il y avait une sorte de... Et ensuite tout a été le truc tolérance zéro de Giuliani dans les années 90, à nettoyer New York, enfin, moi j'y suis jamais allé, mais tout clean, tout propre, etc. Brooklyn tout clean. Donc vous voyez que c'est aussi, ça s'inscrit aussi dans l'histoire. Alors, Haring ensuite était aussi, son style au début, on va dire relativement modeste, il l'a amplifié, c'est-à-dire qu'il a conquis de plus en plus de territoires, y compris spatial, en faisant des œuvres à la hauteur presque de la fraise, de la muralité, même de l'architecture. Donc il est devenu. Et ensuite, il s'est fait connaître étonnamment, d'ailleurs, grâce à Andy Warhol, qui n'était pas que un personnage de l'establishment artistique, c'est quelqu'un qui a toujours eu l'œil sur les artistes vivants. Hein, surtout Andy Warhol, au fait, au ses débuts, c'était aussi The Factory, c'était de l'underground. Donc même en étant riche et célèbre, Andy Warhol avait toujours le regard sur les artistes de rue, etc. Et il a aidé Haring à se faire connaître, à pouvoir exposer dans les galeries, à avoir des commandes. Et Haring est devenu, il y a eu une sorte de récupération, voilà, de Haring dans, on va dire, un art un petit peu officiel. On aurait dit à New York les bobos de l'époque, etc. Mais pourquoi pas, c'est-à-dire que cet artiste avait quand même pu vivre et aussi, de son style, en faire un petit, de nature un peu décorative et intéressante. Donc Haring, c'est un des premiers à être passé, on va dire, de l'art de la rue à un art un petit peu comme ça, pas officiel, mais un art du consensus, hein, consensuel. Et maintenant, tout le monde connaît Haring, il y en a partout, il y en a même sur... Mais il est mort, c'est un des premiers morts célèbres du sida d'ailleurs. Hein, etc. Donc on est dans les années 80, 90, même à peine 90. Et alors, mais par contre, il a un mode d'expression qui s'apparente totalement, y compris au street art de base, y compris le travail sur le support, directement sur le mur, il n'y a pas d'après. Ce sont des outils simples, ce sont des outils de la rue. On est toujours entre le langage, le dessin, l'écriture, le signe. Hein, le côté à la fois intime, populaire, fragile et politique, et là il est clair. Alors son alter ego new-yorkais, ce qui est proche et différent à la fois, c'est Jean-Michel Basquiat. Ah ben il y a le nom là-bas. Jean-Michel Basquiat qui est aussi un parcours assez proche, hein, de Haring, ils ont la même génération, ils sont morts à peu près à la même époque, et lui aussi a commencé dans la rue, a fait des études d'art, mais en plus d'être un pauvre étudiant, il avait le stigmate, on va dire, genré, du fait d'être métisse jamaïcain, je crois, ou antillais, hein, ou haïtien. Haïtien, donc de père ou de mère haïtienne, donc de peau et un type physique noir, et en même temps d'être de culture urbaine, new-yorkaise, américaine de l'Est, etc. Et aussi, quelque chose quand même qui était terrible, c'est que, si on regarde bien, dans ces années 80-90, et même encore maintenant, il n'y a quasiment aucun artiste noir, ou même métisse, reconnu ou connu, enfin, dans le grand panthéon des artistes contemporains. Très peu, alors ça commence à venir, hein, mais il y en a très peu. Et donc, pour un jeune métis, etc., se faire reconnaître, c'était triplement difficile. Les pauvres, les argent, etc. Et donc, vous avez, dans l'expression « sur les palissades et les graffitis » de Basquiat, un mélange, une sorte de là encore, un dépôt lui-même et une sorte de dépôt de plusieurs cultures. Haïtiennes, urbaines, new-yorkaises, anciens esclaves, en même temps un jeune homme cultivé qui a plein de connaissances, et donc de trop-plein qui déborde, et une sorte de rage et urgence d'expression qui se traduit dans ces peintures-là. Quand on regarde de près, c'est quelque chose de très sophistiqué. Hein, très sophistiqué parce que derrière une sorte de figuration, on va dire, primitive, délibérée, qui évoquerait presque le côté un petit peu brut qu'il peut y avoir dans certaines pratiques primitives, entre guillemets, mais en même temps brut, mais sophistiqué, tu vois, assez élégant. Vous avez des messages, des langages, des écritures, des sophistications, par exemple, sur les types de présentation en perspective, en ellipse, des collages, des textes, des écritures. Donc, une manière aussi de montrer un trop-plein presque de tout ce qui le constitue. Quelque chose d'apparemment simple, mais si on regarde bien le système digestif, lui aussi est très soigné. Jeu de couleurs, les fonds, la dimension réelle, de presque biologique. Vous avez des jeux de collage, des coulures, des bavures, de la matière, des grattages. Il y a à peu près tous les étapes de la peinture, quand on regarde ce qu'on a vu jusqu'à présent, même du tapis, il y a un peu tout là-dedans. Mais dans une sorte d'esthétique de l'urgence, et qui va faire vraiment, en plus, sur des vraies palissades, sur des vrais murs, sur des matériaux pauvres aussi. C'est aussi une sorte de pratique désabusée et un peu mélancolique, hein, de cet artiste qui travaille la nuit, il va faire quasiment des œuvres, il va se lâcher complètement, et puis laisser ses trucs à l'abandon, enfin, au hasard de ce que ça peut devenir. Donc, vous avez dans les premières pratiques de Basquiat un véritable art de la rue, dans lequel l'essentiel, c'est quand même le graphisme, mais qui a quand même un travail sur la couleur, sur la matière, sur les textures. Mais le support est important, parce que le support, c'est une manière de dire, de valider son travail. Si c'était sur une belle toile, ça n'aurait pas la même puissance. Le fait que ce soit sur une palissade, sur des matériaux récupérés dans la rue, c'est aussi une manière de justifier son travail, de le pérenniser, et c'est pour ça qu'il le laisse voir de manière très très claire. Alors, les Basquiat sont assez complexes, il y a plusieurs, hein. Style de Jean-Michel Basquiat. Ah bah non, ça c'était... Alors Basquiat, je ne vais pas vous montrer tout, mais je vous renvoie aussi à d'autres œuvres. Alors, c'est quand même un très grand coloriste, l'air de rien, c'est aussi un graffitiste, mais quand on regarde souvent ce qui va unifier cette espèce de télescopage de références, etc., c'est souvent les couleurs. Hein, les couleurs, hein, un style qui est propre à lui, où il y a plusieurs registres, depuis le dessin presque assez savant, jusqu'à l'espèce de peinture presque un petit peu bad painting, direct, brut, faite avec des grands coups de pinceau, etc. Hein, donc en même temps, il est aussi dans une tradition artistique américaine. Hein, donc c'est... Et puis ses supports, souvent des supports bruts. Alors lui aussi va être repéré par Andy Warhol, qui... Alors Andy Warhol, n'oubliez pas aussi, c'est quand même quelqu'un qui avait travaillé sur les pochoirs et les sérigraphies, et qui avait travaillé aussi sur les esthétiques et les images populaires. Les Marilyn Monroe, les Elvis Presley, etc. C'est que Andy Warhol aussi, et sur la publicité. Donc Andy Warhol, quelque part, voit dans ces jeunes artistes de la rue des gens qui continuent à être dans une sorte d'ancrage social, américain, moderne, et qui, à leur manière, un peu brut, alors que Warhol venait du monde de la publicité, mais il vient de la rue, mais il a l'intelligence de savoir les reconnaître et de les valoriser. Et donc on peut dire que Basquiat et Haring, même étant morts très jeunes, ont eu la chance de se voir reconnus et un peu baptisés dans le monde de l'art majeur par Warhol. Ils ont pu, donc, ça les a pas empêchés de mourir très jeunes, mais leurs dernières années de la vie, ils ont pu avoir cette espèce de satisfaction, au moins d'avoir cette espèce de puissance reconnue. Alors maintenant, le graffiti art, le street art proprement dit, parce que là c'était un petit peu les sources que je vous ai montrées jusqu'à présent, depuis les plus basses dans les toilettes jusqu'aux plus politiques, etc., ou artistiques. Maintenant, qu'est-ce que ça donne, cette espèce de, on va dire, dans les rues, au quotidien? Alors ben là, vous avez une sorte de foire, hein, où la concurrence est libre et non faussée, où chacun fait ce qu'il veut, fait ce qu'il peut, mais il y a certains jeunes, ou certains, qui vont se contenter de marquer le territoire, de signer, de mettre leur signature partout, avec, en gros, des codes et des représentations, des modes d'écriture qui vont être reconnus comme étant du street art, donc ils font partie, c'est une sorte de tribu, hein, qui va se reconnaître entre eux. Il y a le marquage du territoire, et puis dans cette espèce de magma, moi je prends l'autoroute assez souvent, je trouve ça piteux et pauvre, mais dans cette espèce de magma, on va dire, d'art populaire, vous allez avoir des gens qui vont émerger, qui vont utiliser les codes du street art, du graffiti, etc., et qui vont en même temps essayer de s'imposer, non pas par la force, mais aussi par la finesse, la subtilité, l'intelligence, etc. Et dans ce terreau-là, il y a des choses qui... Alors, par exemple, Insmall, hein, quelqu'un qui est assez intéressant au niveau de son graphisme, avec des éléments figuratifs. Alors, par contre, souvent, ce qui est un petit peu pauvre à l'origine, c'est que le message est limité au prénom, au nom, et au nom de code. Hein, c'est vraiment au surnom du street artist. C'est, en gros, c'est vraiment le niveau zéro, on va dire, de la pratique artistique. C'est « j'étais là hein, ». J'étais là, voilà, j'ai signé, c'est vraiment la signature toute simple, il n'y a plus de message politique, il n'y a plus de truc, il y a vraiment une pratique qui est peut-être sociologique, mais l'image ou le texte que l'on donne à voir est souvent pauvre, c'est un code. Et ensuite, c'est un code interne à des tribus, c'est-à-dire qu'en gros, ça ne s'adresse plus à toute la population, ce n'est pas universel, c'est des marquages de territoire, de tribus entre elles, ou de gens entre eux, qui se reconnaissent en faisant partie d'un monde, qui vont se rencontrer dans la rue, la nuit, etc., qui vont se parler par graffiti interposé, mais dans lequel, on va dire, le commun des mortels assiste à une sorte de battle, mais à laquelle il n'est pas convié. Et dans cette espèce d'univers que je trouve extrêmement pauvre et décevant, il y en a certains qui vont essayer d'atteindre un petit peu l'universel et de s'adresser à une population plus vaste, et de quitter, on va dire, cette espèce d'autoréférence permanente. Alors, ah bah tiens, pourquoi je l'ai mis ici? Oui, attendez, juste en dessous, normalement, il ne devrait pas être là. Kidult. Tant pis, je vous le dis quand même, c'est pas grave. Parce que c'est plus récent. Enfin, c'est bon. Kidult, c'est un artiste plus contemporain qui utilise le graffiti. Alors, parce que dans le graffiti, le street art, il y a quand même l'idée d'une transgression. Parce qu'on va. Normalement, on est dans un lieu interdit. On est dans quelque chose. Même si c'est une friche industrielle, même si c'est un mur, on n'a pas le droit de le faire. Hein, souvent, on brave un petit peu les interdits là-dessus. Alors, Kidult, lui, a une signature, c'est cet effet de tête de mort, des couleurs, des coulures, et lui, il intervient sur la publicité. De ce point de vue-là, il y a un petit rapport avec Lisa Haring, c'est qu'il va détourner ou souiller des marques qui, non seulement sont des marques de luxe, joue sur le logo aussi, quelque part le logo et l'écriture associent l'image et l'écriture, donc quelque part on est dans une sorte de graphisme du logo contemporain dans la publicité, mais il va y associer lui aussi le même univers, logo et écriture, mais dans une superposition qui est de dénonciation. Et il fait attention aussi à choisir des, c'est toujours Kidult ici, des marques qui en plus ont essayé de récupérer le street art. C'est-à-dire des marques qui ont essayé de récupérer des street artistes ou l'esthétique de la rue, comme par exemple Marc Jacobs, qui va dans ses habits, dans ses costumes, faire un peu les habits, fringues de la rue, etc., tout en étant extrêmement cher. Et donc, lui, il va essayer de dénoncer ceux qui essaient de récupérer le street art en les confrontant à du vrai street art, c'est-à-dire en allant taguer, dégueulasser leur vitrine, leur logo, etc. Donc, il y a une sorte de jeu là-dessus. Alors, le pire, c'est que je crois qu'il a même été récupéré. Certains se sont dit, hey, regardez, venez voir ma vitrine. Marc Jacob a dit, ouais, j'ai une vitrine taguée par Kidult. Et donc, vous avez cette course aussi à la dénonciation, récupération, etc., qu'on va retrouver ici. Donc, certains se sont dit, mais ça leur fait presque de la pub d'être tagué ou par Kidult. Alors, quand même, là, c'est un petit peu. Là, il a été un peu loin. Là, je ne sais plus où c'est quel. Ah, c'est Agnès B. Hein, Agnès B. Homme, alors là, c'est toujours Kidult. Hein, avec en plus des. Alors lui, il utilise des outils. Je crois qu'il utilise des extincteurs remplis de peinture. Donc ça permet de projeter très très loin. Donc l'extincteur est devenu une sorte de sa marque aussi de fabrique. Alors lui, il est clandestin parce qu'il fait des choses qui sont effectivement. Il peut avoir des procès, etc. Alors je ne sais pas où il en est, sa reconnaissance, etc. Mais il a un site, il a un blog. Et Kidult, là, effectivement, on est dans un street artiste, on est dans un graphisme, et la rencontre avec la peinture, y compris cette fois-ci, où tout à coup, la peinture, c'est plus juste le signe, c'est quelque chose qui recouvre la tâche. Hein, on part de la ligne, on arrive à la tâche. Et là, le support est évidemment très important, parce que c'est la vitrine, directement. Hein, c'est plus les murs à côté, c'est la vitrine. Agnès B., alors, bon, elle n'a pas dû être très contente, mais Agnès B. avait joué sur l'image aussi, branchée, street art. Chanel, alors aussi, dans le camion, le camion qui va parcourir la ville. Alors on avait ça dans les street artistes américains sur les trains, hein, les trains tagués, les wagons, etc., le métro. Donc les lieux de passage, la rue, c'est ça aussi, c'est des lieux publics. Et le camion ici tagué, ça fait un petit peu, voilà, un petit peu sale. Mais Chanel joue aussi sur graphisme, logo, etc. Dans ce cas, c'est une sorte de guerre. Alors voilà d'ailleurs son extincteur et sa tête de mort, qui est devenu presque une sorte d'objet culte, sa signature, hein, qui devient, c'est cette espèce d'extincteur qu'il a transformé en prose pour pouvoir en vendre et vivre aussi de son art. Donc vous avez des sortes de petites sculptures qui sont... Alors là, ils rentrent un petit peu dans le côté chic. Hein, c'est que vous avez aussi des... Alors, il faut comprendre certains artistes. Il faut bien un moment aussi, s'ils veulent vivre de leur art, il y a un moment... Donc c'est les ambiguïtés, des rapports... Et voilà aussi, toujours Chanel, avec un tête croisée, tête de mort sur Chanel. Et on voit, il y a un jeu graphique assez subtil, quand même. Donc, pas inintéressant. Et voilà, toujours Kidult. Hein, Louboutin, il s'amuse bien, quand même. Hein, Camuso, il s'amuse. Alors, il faut dire que, si vous voulez, les Champs-Élysées, qui pendant longtemps ont pu être un centre de la culture parisien, maintenant c'est une galerie commerçante. C'est une galerie commerciale. Hein. Champs-Élysées, c'est Carrefour, mais luxe, quoi. C'est que les marques Carrefour. Mais, si vous voulez, il y a une sorte... C'est juste une sorte de galerie commerciale. Donc, si vous voulez, c'est pas étonnant non plus que ça provoque aussi, en plus, un peu au nez à la barbe de tout, de la banlieue, tout le monde qui vient ici. Donc, si vous voulez, vous avez un juste retour des choses, finalement. La plus grande avenue, eh ben, elle aussi, elle finit par être atteinte par ce street art et l'art du graffiti de façon provocante et légitime. Là encore, c'est toujours lui. Je sais plus où c'est ça. Alors... D'autres pratiques artistiques, on va dire, plus poétiques, qui vont rencontrer, on va dire, alors là aussi, on va dire, des pouvoirs constitués. Tout à l'heure, on a vu le commerce, par exemple. Ici, des choses qui sont en fait presque des commandes publiques. C'est-à-dire que certains artistes vont avoir un rapport aussi avec le pouvoir divers et varié, on va voir le pouvoir commerçant ou le pouvoir public. Comme par exemple ici, Jérôme Ménager, qui est un artiste, on va dire, poète, qui a son homme en blanc, qui depuis des années il va le introduire dans les capitales du monde entier. Alors, lui, c'est un message très simple, c'est juste une silhouette blanche comme ça, un peu universelle, qu'il va peindre comme ça dans des capitales, dans des endroits divers et variés, et que l'on voit comme ça parfois de temps en temps, et qui correspond réellement à des vrais déplacements, des vrais voyages. C'est le ménager va vraiment se déplacer et laisser sa marque comme ça, comme une sorte de carnet de voyage, mais dans la réalité. Et il est devenu relativement connu. Et avec lui, on a pu avoir des commandes presque officielles, comme celle-ci ici, Liberté, Égalité, Fraternité, hein, où il va illustrer quelque part des symboles de démocratie, une sorte de peinture officielle sur le vieux mur d'une vieille mairie, sans doute, ou d'une vieille école, sur les vieilles parois voilà, d'un garage, donc quelque chose de pauvre, mais une sorte de rencontre, cette fois-ci, avec une réalité sociale, sociologique, etc. Alors là encore, hein, le support a de l'importance, les moyens sont simples. Ce sont des moyens graphiques, peinture, pinceau, etc., peu sophistiqués, mais intéressants tout de même. Alors voilà encore Jérôme Ménager, avec, là, on voit aussi parfois les en train de peindre, hein, il est là à droite, ça c'est une de ses premières œuvres sans doute publiques, où justement, vous avez le dialogue entre, on va dire, deux cultures du street art, un petit peu, vous avez le graffiti, l'énorme table, c'est juste une signature, et puis lui... Il utilise à peu près les mêmes outils de la rue, etc., mais dans une ronde plutôt poétique et une sorte de douceur, hein, et de ronde, au lieu d'être dans le marquage individuel, on est dans l'universalité. Donc là, on est, c'est intéressant aussi. Vous voyez que même entre artistes du street art, il y a aussi parfois des conflits esthétiques, des dialogues et des rencontres qui peuvent être intéressantes. On continue. Alors, attendez, il faut que je dézoome, ménager. Alors, une qui est très connue, et peut-être justement en France, c'est peut-être les vraies signatures personnelles, on va dire. Vous avez Kidul, vous avez Ménager, vous avez Mystique. Donc, vous voyez là des artistes qui se distinguent par des pratiques soit très politiques, voilà, Kidul, soit Ménager politique, soit les deux, féministo-politiques comme Mystique, qui utilisent un outil très simple, c'est le pochoir. Là aussi, vous avez une cohérence esthétique, parce que si vous voulez, le principe du street art, c'est qu'il faut travailler quand même relativement vite. Hein et donc, sur ça, la bombe, le graffiti, les formes simples, ou l'extincteur qui permet d'aller vite et de faire beaucoup, etc. Et souvent, c'est des pratiques nocturnes interdites. Le pochoir, vous pouvez travailler tranquillement chez vous, et la nuit, comme ça, vous avez votre pochoir. Et donc, Mystique depuis presque 30 ans. Et c'est son surnom, hein, Mystique. Et évidemment, vous avez son pochoir original, Le Temps est un serial killer. Elle joue beaucoup sur les mots, il y a toute une poétique, etc. Elle a ce type d'écriture qui est imposé par la technique du pochoir. On ne peut pas faire n'importe quelle lettre parce qu'il faut découper. Si on fait des ronds, ça va tomber. Enfin, bref, il y a toute une logique du pochoir, de la bombe, qui va devenir une esthétique. Et ça aussi, c'est intéressant. Et qui permet d'aller sur tous les supports, justement. Le pochoir vous permet de rencontrer tous les supports. C'est donc tout d'un coup un marquage réel. Et là, on la voit en train de bomber, justement. La vie, ça va passer. C'est la vie, ça va passer. Donc, souvent. Alors là, ils sont à deux, hein, quelqu'un qui tient un pochoir. Là, c'est sans doute un pochoir en aluminium, c'est plus résistant. L'intérêt du pochoir aussi, c'est de le faire plusieurs fois. C'est donc cette idée d'aller, cette espèce de poète, ou cette petite. Comment on appelle ça ? Aphorisme de mystique qui va pouvoir aller mettre dans des endroits. Ensuite, par contre, on va choisir des endroits souvent poétiquement très intéressants. Hein, dans un coin de rue, près d'une gouttière, près d'une porte, dans un autre passage, etc. Ou très bas, pour enchanter un petit peu le passage et la rue. Par exemple, je suis dans la lune, ne me décrochez pas. Et on voit, elle avait anticipé. Ou alors, à chaque fois, son pochoir, elle fait en sorte qu'on a l'impression qu'elle est derrière la gouttière. Donc, elle va sortir d'un cadre. Donc, elle va se débrouiller, y compris pour que son travail puisse s'insérer dans des réalités rencontrées par hasard. Donc, le support, c'est aussi une rencontre réelle entre son pochoir et puis des lieux. Tout d'un coup, elle se dit, tiens, toc, là, ça va être bien, là, je vais pouvoir le faire, etc. Et puis, le côté, justement, une poésie urbaine. Hein, ce qui fait que maintenant, d'ailleurs, les gens qui ont un pochoir de mystique devant chez eux, ils vont essayer de le protéger, puisque maintenant, depuis 30 ans, elle est assez connue. Il y en a un peu partout dans Paris, si on regarde bien, il y en a qui ont été effacés, etc. Mais maintenant, elle fait presque partie d'un patrimoine de la vie, de la rue parisienne ou même ailleurs, qui fait qu'elle a été connue. Et puis, c'est une des premières femmes dans ce monde-là qui était très masculin, sortir le soir avec la bande de potes, la cagoule, etc. Elle a aussi renversé ça. C'est pour montrer qu'une femme pouvait aussi être dans la rue, dans l'espace public, et en plus, casser un petit peu les stéréotypes masculins de, ouais, de la rue, etc., qui sont un peu forts aussi. Alors, toujours mystique, comme par exemple, soyons heureuses en attendant le bonheur, hein, mystique, et toujours quelque chose d'assez intéressant, avec une image qui est un petit peu parfois, qui n'est pas parfaite, mais sa puissance vient du lieu, de la rencontre, et puis les phrases hein, qu'elle met. Et puis là, on a bien effectivement écriture, image, hein, comme les logos publicitaires, mais totalement renversés. À la vie, à la mort, alors ici, il y a un petit chat à côté, par terre, comme un chat de gouttière, la vie, la mort, etc. Et puis aussi, très proche, alors là, vous voyez, le support est très important, le côté un peu, justement, qui donne un effet de réel à cette image qui, sinon, est un peu désincarnée, mais en arrivant sur des vrais murs, sur du vrai ciment, vrai béton, des vraies crasses, des vraies saletés, ça donne une puissance à ces interventions discrètes. Et puis, il y a toute une esthétique aussi, dans un monde... une des puissances du street art de ce type-là, c'est qu'on est dans un monde de la quantité et de la super maîtrise technique. Dans une partie des artistes, excusez-moi, mais Jeff Koons, par exemple, c'est hyper sophistication, mais pour rien dire. Hein, c'est vraiment des trucs lisses, brillants, très très complexes, etc. Et là, vous avez quelqu'un qui est quand même petit pochoir et capable de dire beaucoup plus. Hein, vous avez donc aussi cette idée qu'on est dans un monde de sophistication dans tous les domaines, les jeux, la technologie, les médias, l'informatique, on est vraiment dans un monde. Et tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui inverse, hein, à front renversé, on pourrait dire, crac, prend exactement le contre-pied pour tout d'un coup s'exprimer artistiquement. On peut considérer, hein, c'est un petit peu comme les artistes impressionnistes qui, eux, faisaient de la bad painting, au moment où il fallait tout dominer, tout contrôler dans l'art pompier hein, du 19e siècle. Là, vous avez aussi justement quelqu'un qui va valoriser presque tous ces artistes qui, s'ils sont populaires aussi, c'est parce que justement, ils ont des moyens simples. Hein, des moyens simples et qui sont le contraire de l'hyper-sophistication que l'on voit partout. C'est la vie, ça va passer. Alors, on voit qu'elle a deux pochoirs. Il y avait celui du texte, il y avait celui de la figure féminine aussi. Et voilà, vous voyez, le temps est un serial killer, elle l'a fait plusieurs fois, hein. C'est la vie, ça va passer, et sa signature à côté. Donc elle est aussi à la rencontre, et à côté, alors j'imagine que celui qui a le café à côté, il n'a pas intérêt maintenant à ce que ça soit effacé, parce que le mur a un grain, moi aussi, vous voyez, son rapport au support, c'est quelqu'un qui a une très grande intelligence, y compris des lieux, de ce qu'elle fait, le grain du mur, et elle a le grain de folie, etc. Hein, très poétique. aussi. Alors, un artiste aussi qui est assez marrant, qui s'appelle...
Serge Florence.
Alors, il en a fait dans plein d'endroits, je crois, c'est Jinx, et qui va faire des détournements de panneaux de signalétique.
Oui, à Florence.
C'est
à Florence.
Ah bon, ma chère, pas plus.
La villa del Canino.
La villa
del Canino.
La villa del Canino. Donc, voilà.
La rue du Chien.
Et Cassine. Et ce jeu de détournement, effectivement, qui est logique, parce que c'est vrai que finalement, les panneaux publicitaires, toute la signalétique, ben, c'est un travail graphique, hein, de code universel, et se les approprier, les détourner, avec humour, avec des moyens très simples, un petit pochoir, sur les sens interdits. C'est drôle, élégant, puis ça peut être fait partout. Et il y a de l'humour. Et en même temps, là, c'est vrai que c'est des panneaux routiers, sécurité, etc.
C'est une commande, je pense, parce qu'il y en a vraiment partout.
Alors, peut-être qu'à Florence, c'est une commande.
Et en plus, il y a sa boutique.
Ah, d'accord.
Et ils vendent des cartes
postales. Ah bon, bah alors voilà, donc c'est quelqu'un. Mais il a certainement commencé dans la rue. Hein. Ça, je pense que, comme beaucoup d'artistes, on finit par s'imposer, parce qu'en trouvant une sorte d'équilibre. Entre la transgression et la reconnaissance.
Est-ce que ça a encore une utilité pour la circulation, ça ?
Ah, voilà. Oui. Je pense que, justement, cette idée que, voilà, après tout...
Mon fils a pris des photos, lui.
Ah, d'accord.
Oui.
Donc, c'est ce...
Oui, parce qu'il y a des procéduriers qui disent, c'est votre faute, là, je suis rentré dans le mur parce que je regardais ça.
On pourrait. Mais en Italie, de toute façon, je ne sais pas si c'est une très grande utilité, excusez-moi, j'aime bien l'Italie, mais les panneaux routiers... Quoi qu'il en soit, même en bon état, je ne sais pas si c'est...
Mais je pense que c'est actuel. Hein.
Ah oui, c'est très...
Il y en a partout, des panneaux. Ils en mettent tellement qu'on...
Ah d'accord. Donc voilà, là encore.
Ça n'enlève pas le message.
Non. Enfin,
alors,
voilà un anonyme pur, mais que je n'ai pas qu'à transformer des places de parking en graines de pissenlit. C'est vraiment tout simple, mais c'est d'une efficacité et c'est très élégant,
c'est joli,
très beau.
Hein.
Ouais, c'est tout simple, mais toc. Donc, il y a une invention remarquable, et ça c'est intéressant parce que justement, c'est un art populaire, et dans lequel ben, y a le pire et le meilleur, effectivement, mais avec des choses notables, et celui-ci, je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est très beau, et on peut même voir des petits râteaux, et puis je sème à tout vent, la rousse, tout ça, c'est beau. Alors, vous avez maintenant, on va dire, des artistes qui vont être un peu plus dans la reconnaissance et dans la dimension artistique, qui vont faire la pratique du graffiti, de la ligne. Et ça, c'est Pablo Tomek, hein, donc, qui, cette fois-ci, va faire une sorte de glissement de la signature vers une sorte de calligraphie. Alors, on n'est toujours pas sur des toiles, on n'est pas dans l'espace de l'atelier, on est dans l'espace public, mais ce sont, on va dire, des... On est dans l'entre-deux aussi, et Pablo Tomek, une sorte d'inspiration qui est un peu de l'ordre de la désécriture qu'on avait vu avec les artistes poètes, des artistes lettristes, sauf qu'au lieu d'avoir le livre comme support, c'est un peu le propre des lettristes, et, bon, c'était des artistes des années 50-60, où il y avait encore une sorte de pas de culte, mais de respect de le livre comme un objet, là c'est un peu transposé dans la rue, mais avec des gens qui sont pas très éloignés de l'univers lettriste, ou de la calligraphie, comme par exemple ici Ali Rafaïd, qui va faire des choses qui évoqueraient une calligraphie arabe, mais qui n'en est pas, avec les grands éléments de la calligraphie arabe, c'est-à-dire l'alphabet, puis les points des voyelles, etc., qui vont être en haut, en bas, etc., avec comme des petits rectangles, avec l'outil aussi du calame, hein, ou le pinceau avec lequel on va faire la calligraphie, qui va permettre de faire des largeurs et des biseaux, etc., mais à une échelle très grande, etc. Donc quelque chose aussi d'assez élégant. Alors, on est là dans... Là encore, hein, je crois que c'est... Ça, c'est de Shida, hein, qui fait là encore des sortes gigantesques calligraphies du même type, avec alors là, des balais télescopiques. Et alors là, ceci, il faut le tenir, hein, le balai, quand il fait plusieurs mètres, c'est un travail physique assez difficile. Mais toujours, on est dans une sorte de dérivation du travail de l'écriture dans l'espace public. Avec des choses très, très élégantes, hein, très maîtrisées. Là, on est vraiment... Vous voyez, il y a quelque chose... Et le voilà en train de travailler. Et alors là, il est dans une friche. Hein, une friche. Là, je ne pense pas que ce soit des commandes. Alors, certains artistes, par la suite, se faisant reconnaître, ont eu des commandes. il y a certaines villes. Juste un truc, c'est que les grandes commandes de street art, on en voit peu en France, parce que on a tellement de patrimoine urbain qui est tellement protégé que on peut pas. Il n'y a pas beaucoup, il y en a trop, mais les friches industrielles en France, heureusement, il n'y en a pas tant que ça. Mais dans des villes comme en Allemagne, en Argentine, dans des pays, etc., il y a plus ou très industrialisés, où il y a eu beaucoup de bouleversements, où y compris le patrimoine architectural est moins protégé. Nous, en France, la moindre commune, 36 000 communes, vous avez un bâtiment, vous avez une fontaine gallo-romaine, vous avez un menhir, vous avez un temple gallo-romain, vous avez un bâtiment roman, vous avez du gothique, vous avez du renaissance, vous avez tout. Donc on a une sorte de patrimoine qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de murs.
Il y a des murs qui sont en trompe-l'œil dans Paris.
Alors voilà, mais ça c'est des commandes, voilà. Alors là, on va avoir des commandes dans des trucs comme ça. C'est que, mais spontanément, pour les artistes qui veulent s'expérimenter, ils sont obligés d'aller se cacher dans des vieux trucs, etc. Donc c'est pas évident, voilà, dans les tunnels, etc. Donc, alors que dans d'autres pays, on va trouver ça beaucoup plus librement. Alors, Sidic Choi, moi je ne les connais pas. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que justement, ça rencontre toutes les cultures, c'est mondialisé. C'est vraiment... au début, ça m'énervait. Une fois, je voulais, grâce à Google Earth, je voulais aller voir des villes. Je me dis, je ne suis jamais allé en Mongolie, je vais aller à Oulan-Bator. Je zoome, j'arrive à Oulan-Bator par Google Earth. Je me balade dans les rues d'Oulan-Bator avec Street View. Et je voyais des graffitis, des tags partout. Je me dis, bon, c'est pas la peine d'aller en Mongolie, c'est pour voir les mêmes cochons, enfin, les mêmes trucs. Exactement. Donc, il y a une mondialisation qui correspond à la mondialisation, etc., réelle, y compris esthétique. Là où c'est intéressant, c'est qu'on va trouver de la mondialisation, c'est qu'on va avoir de la calligraphie arabe, calligraphie chinoise et japonaise, qui quelque part sont un juste retour des choses, puisque ce sont des cultures aussi de l'écriture et de la calligraphie. Donc quelque part, c'est tout à fait logique de voir la calligraphie arabe ou la calligraphie asiatique, comme par exemple ici. Alors, vous avez des œuvres, on sait, qui vont tout d'un coup décoller au sens strict, c'est-à-dire que les outils, la technique du street art, met vers... de la peinture populaire en public ou au public, alors là avec vraisemblablement une commande et une autorisation, parce qu'elle ne peut pas faire sans nuit. Hein, c'est une femme qui s'appelle donc Dalist, hein, c'est son surnom, hein, D-A-L, alors ça c'est à Vienne, etc. Mais où on va retrouver une sorte de référent au niveau de l'image qui est toujours dans le street art, c'est aussi la confrontation avec la nature et la ville. Une sorte de nature perdue et puis une ville un peu brute, le béton, la violence de la ville, l'urbanisme sauvage qui va bousiller un peu la nature, mais quelqu'un comme Dalist le fait avec une virtuosité. Ah non, je confonds ça, c'est un homme. Donc, tout à l'heure, on verra une femme qui travaille.
Ça rappelle quand même les oiseaux de Van Gogh.
Alors, oui, les corbeaux. Alors, là, c'est une technique qui est très subtile. Hein, c'est fait à la bombe. Et ensuite, avec du blanc, elle va rehausser en blanc pour donner l'impression que ce sont des fils et des épaisseurs qui vont donner un volume en plus, un effet d'ombre et de lumière à son travail de graffiti fait à la bombe presque de façon hasardeuse, comme une sorte de valeur de gris, de hachure, mais donc une virtuosité assez remarquable. Donc Dalist, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça c'est encore le même artiste. Hein. Alors évidemment... espèces en voie de disparition ou menacées, les baleines, les oiseaux sauvages, etc. On a toujours cette idée aussi de... Voilà, hein, souvent ce sont quand même des artistes qui sont dans cette espèce de contre-culture devant un monde urbain, dominant, dont ils font partie, mais ils n'en ont pas les clés, etc. Je vais un peu plus vite. Alors voilà, c'est elle qui est Face, qui est une artiste, je crois, sud-africaine. Et là encore, même thématique, l'animal sauvage dans un monde urbain qui est en train de briser, etc. Et je crois que c'est en Chine, à Hong Kong, etc. Hein, et la série d'océros qui sont remarquablement peints, puis d'un coup avec la coulure, qui est un peu comme les larmes, ça évoque à la fois aussi l'urgence de la peinture, elle peint vite, la peinture brute, etc. Et puis cette espèce de forme puissante, mais qui est en train de disparaître avec la coulure, les larmes. Donc vous voyez que là aussi, ce sont vraiment des artistes qui travaillent avec les outils du street art et avec des qualités graphiques pures, de noir, de blanc, de matériaux, de lignes, de dessins, etc. Et ça, c'est assez remarquable. Alors là, un travail sur le fond, une virtuosité au niveau de la peinture, et puis la coulure, hein, évidemment, qui, normalement, la surface devrait tout recouvrir. Et là, ça redevient ligne, signe, hein, du pleur, de la souffrance, etc., d'une beauté naturelle qui est en train de disparaître. Et avec des humains aussi, comme dans ici. Alors, je pense que pour faire ça, il va utiliser d'abord un pochoir, en noir, et ensuite tout ce qui est blanc, rajouter une peinture blanche qui va faire couler dessus. Donc, vous voyez, c'est une pratique artistique anticipée, pensée, travaillée, sans doute en atelier d'abord, elle doit prendre, j'imagine, les photos des lieux, travailler en atelier, et ensuite intervenir avec des outils. C'est pas du tout spontané, on n'est pas dans l'espèce d'errance, etc. Alors, je pense aussi, alors, ces artistes, c'est difficile d'avoir des documents, parce que souvent, c'est des gens qui sont un peu marginaux. Alors, souvent, quand même, ils ont fait des études artistiques. La plupart d'entre eux sortent d'école d'art.
On ne s'improvise quand même pas comme ça, à ce point-là. Et là, voilà aussi, encore.
Alors, le jeu sur l'ombre, hein, la photo est intéressante. L'ombre réelle, l'ombre peinte, les ombres dans la ville, etc. Et puis, tout d'un coup, les écritures qui peuvent aller à côté. Tout fait partie de l'œuvre, finalement, y compris les signes, les taches, les éléments abîmés. L'usure, alors, vous voyez, tout d'un coup, on rencontre un petit peu aussi Titus Carmel, mais voilà, c'est des choses qui se croisent. Alors, j'ai fini pour aujourd'hui, mais la prochaine fois, on continuera sur Banksy et sur d'autres artistes du street art. Hein, et donc, on va continuer, parce que c'est quand même quelque chose de très riche et qui est en plein dans le graphisme, etc. Donc, ah oui, j'en ai encore pas mal à vous montrer. Oh là, oui, beaucoup. Sur le street art, il y a beaucoup. Mais c'est riche, hein.
Là, c'est du street art. Ça.
Oui.
Là,
c'est bien. Ah non, ça, c'est le manuscrit.
C'est
pur, oui. Donc, normalement, on a 4 ou 5 cours qui suivent. Là, il y a... On est dans du sérieux, là. Il n'y a plus d'interruption avant Noël.
Oui, c'est ça.
Attends, enregistrer.
Oui.